Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons continuer donc nos enseignements sur la vie d'Abraham. Et Abraham, je vous rappelle, c'est la personne, l'être humain qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun homme n'ait reçue dans l'histoire de l'humanité. Il avait ses qualités, il avait ses faiblesses. Mais toute la Bible lui rend témoignage. L'Ancien Testament lui rend témoignage, Jésus lui rend témoignage. Tous les apôtres du Nouveau Testament lui rendent témoignage. Et on voit vraiment combien ce personnage est important dans la parole de Dieu. Pourtant, ce n'était pas un personnage parfait. C'était un homme fait de chair comme vous et moi. Qui est parti avec pas grand-chose au début, entre guillemets. Et qui a vécu des défis. Comme tous ceux qui reçoivent des promesses. Mais il a utilisé des clés, pourtant il n'avait pas toute la connaissance que nous avons. Qui lui ont permis de vraiment réussir la destinée qu'il avait. Nous verrons que ses promesses ont été limitées par ses erreurs. Et nous verrons que nous pouvons limiter nos promesses par nos erreurs. Dieu peut nous dire des choses. Il peut y avoir une certaine limitation par rapport à ça parce que nous n'exécutons pas toute notre destinée. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, soyez un peuple de rêveurs. Rêvez les rêves de Dieu. Plutôt que de parler bla 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 bla. Laissez-vous envahir par sa présence. Et laissez Dieu vous transporter prophétiquement dans vos rêves. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est là où nous pouvons voir la puissante main de Dieu réaliser et nous faire réaliser des choses merveilleuses. Nous devons être un peuple qui pensons, qui rêvons les choses de Dieu. C'est une capacité extraordinaire que Dieu nous a donnée. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc nous savons Abraham sort par la foi de cette ville dure en Chaldée d'ailleurs. C'était en Mésopotamie, donc on va regarder quelques cartes ce soir, ça va vous donner quelques idées. Et en fait, Ur en Chaldée, la ville d'où il venait, c'était un centre d'idolâtrie, de choses sataniques. C'était un centre d'adoration de la lune. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a adoré la lune, même avant d'être sauvé. Bien sûr, maintenant, vous ne le feriez plus, mais avant d'être sauvé, adorer la lune, imaginez-vous. Ils étaient vraiment dans des atmosphères sataniques bizarres. Il y avait un homme qui marchait avec Dieu, c'était
Abraham.
Et souvent, vous voyez, il y a un homme qui marche avec Dieu parmi une multitude qui refuse Dieu. Et rappelez-vous, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, Dieu cherche des gens avec un cœur sincère.
prêts à
changer.
Et
je ne cesserai de le répéter. Ce n'est pas les gens les plus qualifiés au départ,
les
plus brillants au départ,
qui
forcément réussissent dans la suite. La plupart du temps, sur les observations que j'ai pu faire des gens qui ont marché avec Dieu, c'était souvent des gens qui, comme on dit en français, ne payaient pas de mine, ça veut dire étaient tout tranquilles, tout timides,
qui
étaient vraiment tranquilles dans leur petit coin, mais il y avait un cœur fertile. Donc rappelez-vous, le démarrage n'est pas le plus important. Donc Dieu lui fait des grandes promesses, une grande nation, je vous rappelle, de grandes choses, parce que Dieu voit toujours grand.
Dieu
lui dit, je te bénirai, comme ça tu vas devenir une source de bénédiction. Ensuite on a vu que Dieu bénira ceux qui le béniront et maudira ceux qui maudiront Abraham. Je vous ai expliqué certains principes aussi là-dessus. Donc on voit qu'Abraham part à 75 ans. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour commencer avec Dieu.
Ne
pensez jamais être venu trop tard. Vous êtes venu au moment où vous étiez prêt. Alors ensuite, on a vu que Dieu va se révéler une deuxième fois à lui. Une fois qu'il a obéi, et on a vu ce principe extrêmement important dans nos destinées. Dieu nous parle d'abord sur les grandes lignes.
Et
nous une obéissance de base. S'il
n'y
a pas cette obéissance de base, Dieu ne se révélera pas à nouveau à nous.
Et
il y a beaucoup de gens qui loupent cette première marche, qui pourtant est simple. Parce que je vous rappelle que votre destinée fonctionnera en phase. Étape après étape. C'est aussi quelque chose qui trompe beaucoup les gens. Les gens reçoivent une grande révélation et ils pensent que demain tout va s'accomplir. Non, Dieu va te montrer des choses sur ta destinée, ça va durer toute ta vie. Mais tellement de gens n'ont même pas un cœur obéissant à la base. Et ils ne se positionnent pas pour que Dieu leur parle à nouveau. Et c'est pour ça que Dieu ne leur parle pas plus précisément et qu'après il fabrique des révélations. Ou comme ils tournent en rond pendant des années, ils cherchent à ce qu'il y ait une parole qui leur soit donnée. Et ça ouvre évidemment la porte à toutes les fausses prophéties, tous les prophètes pili-pili qui font recette parce que les gens courent après eux. Et ça c'est vraiment dommage parce que les gens ne comprennent pas. Donc une fois qu'Abraham a obéi, il descend dans le pays de Canaan. Et Dieu commence à se révéler davantage à lui. Et il lui dit, c'est ce pays que je vais donner à ta descendance, celui-là, ce pays. Ensuite, on a vu qu'Abraham avait une grande clé qu'il utilisait dans sa vie, c'était l'adoration. Partout où il va y avoir révélation, Abraham va adorer. C'était un homme qui, selon sa connaissance, restait dans la présence de Dieu au maximum. Ensuite, il va y avoir de l'adversité, nous l'avons vu. Il y a une famine. Et là, nous avons vu que quand il y a des difficultés, les gens ont tendance à faire deux choses, soit à se décourager, soit à fuir. Et là, on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on manque de foi. Quand on est découragé, on manque de foi. Ou quand on part, on s'écarte de notre territoire de destinée. Et c'est souvent ce que le diable aime. Ne pas être à notre place. Comme le disait un jour un enseignant de l'école biblique où on était, quand tu n'es pas à ta place, tu es en dehors de ta grâce. Et tu tombes sur ta face, par terre. Ça, c'est classique. Alors ensuite, Abraham revient, il a tourné en rond, il a perdu un certain temps avec cette histoire en Égypte. Ensuite, on voit que Lot était avec lui et Lot bénéficiait de l'onction d'Abraham. Abraham était un homme très riche.
Abraham
et Lot avait drainé cette onction. Et je vous ai montré que la proximité, quand on est vraiment en accord avec des gens qui sont loin, c'est toujours une grande bénédiction. Et je vous ai montré que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe de l'onction et de l'influence de l'onction. Et ils commencent à se rebeller, à se séparer. Et d'un seul coup, il tombe. Là, on voit qu'Abraham et Lot ont beaucoup de troupeaux, il y a des disputes. Abraham est un homme de paix. Je vous ai montré que pour marcher dans votre destinée, vous devez être quelqu'un de paix, de relationnel.
Et les
gens qui sont constamment conflictuels et qui constamment créent des problèmes alors que Dieu leur envoie des personnes,
ce ne sont
pas des gens qui réussissent dans leur destinée. Ils se gâchent eux-mêmes et Abraham, c'était un homme de paix. D'ailleurs, on le verra à plusieurs reprises.
Et c'est
une clé très importante d'être quelqu'un de paix. Et je vous ai dit que la division n'était pas biblique, mais la séparation est biblique. Quand au bout d'un moment, une relation ne va plus, que ça pose des problèmes, à ce moment-là, il faut couper. Si ça continue et que ça perdure. Et je vous ai montré que là, Lot s'est écarté. Mais Abraham n'était pas quelqu'un qui convoitait. Et nous avons vu qu'il a dit à Lot simplement, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas au nord, je vais au sud, etc. Va où tu veux. Alors que c'était lui le supérieur, c'était Abraham qui avait amené Lot jusque-là. Mais on voit qu'Abraham n'était pas quelqu'un qui convoitait.
Et
là aussi, les gens qui convoitent ne peuvent pas réussir dans leur destinée. Abraham n'était pas un homme qui convoitait. Lot a convoité. Et il s'est retrouvé d'ailleurs au chapitre suivant que nous avons commencé d'étudier dans une catastrophe où il y a eu des ennemis qui sont venus et qui l'ont enlevé, lui avec tous ses biens et puis plein d'autres gens dans la ville de Sodome. Et là, on a vu, et on étudiera plus précisément la vie de Lot, et on a vu que Lot convoitait parce qu'il voyait les belles plaines du Jourdain, là où c'était bien arrosé.
Et
Lot était ce qu'on appelle un opportuniste.
Et
on a vu certaines choses sur les opportunistes. Et c'est des gens, ils essayent de regarder ce qu'ils peuvent avoir, ils cherchent partout d'un côté et de l'autre, sur tous les plans, et ils ne prennent jamais une décision, ils la prennent toujours au dernier moment. Qu'est-ce que je peux avoir là, les avantages que j'ai là tout de suite? Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Et celui-ci, si je vais chez lui, qu'est-ce qu'il va me donner? Et puis, ils font du chantage souvent. Tu sais, l'autre, il me donne ça. Toi, qu'est-ce que tu me donnes en plus? Les opportunistes sont comme ça. Sont toujours en train d'essayer de trouver un truc ou un machin. Qu'est-ce que je vais gagner tout de suite le plus?
Ils
n'écoutent pas Dieu. Et ils ont la vue très courte. Ils pensent à aujourd'hui. Les opportunistes sont ceux qui gâchent leur destinée. J'en ai vu plus d'un être comme ça. Ils sont là, ils sautent sur les occasions pour essayer de récupérer le plus tout de suite. C'est ce que Lot a fait. Sauf qu'après, c'est devenu un naufragé. Lot, il a tout loupé. Dieu l'avait placé auprès d'un homme de Dieu extraordinaire.
Et
il a tout mis par terre. Il a tout gâché de là jusqu'à
ça.
Nous verrons comment il va terminer. Ça va être un naufragé. Je l'appelle naufragé, Lot. Comme ceux, vous savez, qui sont dans des bateaux et qui coulent. Alors ensuite, après la séparation, je vous ai raconté aussi l'histoire de Paul et de Marc et de Barnabas.
bamaze gutandukanya mu byo gutandukana naravuze kubijanye na Paulo na Barnaba na Mariko.
Mais on a vu comment Paul après avait restauré la relation avec Marc.
Twarabonye ngene mu nyuma Paulo yongeye kunagura imigenderanire we na Mariko.
Mais à un moment il s'était séparé avec Barnabas à cause de Marc.
Ariko twarabonye ngene ku bwa Mariko bari batandukanye na Barnaba.
Alors, on voit qu'il y a une troisième révélation. Et là, Dieu lui dit, maintenant, voilà, tu es sur le territoire. Je t'avais dit que c'était ce pays-là. Et Dieu lui dit, maintenant, tu vas le parcourir. Et je vous ai montré que là, il faut être un rêveur. Quand Dieu vous a parlé, vous avez commencé à obéir. Rêvez. Parcourez votre pays promis. Passez du temps à méditer, à vous imprégner de la vision. Parce que s'imprégner d'une vision, cela prend du temps. Parce que le jour où vous allez vouloir accomplir cette vision divine, il y aura 1 milliard de choses qui vont s'opposer. Et quand vous êtes tellement imprégné de la vision divine, ça fait partie de votre ADN au bout d'un certain temps. Après, ça sortira plus jamais. Mais tant que ce n'est pas dans votre ADN, entre guillemets, spirituel, si on peut dire ça, Ce n'est pas une nouvelle doctrine, hein, c'est juste une illustration. Mais tant que c'est pas tellement infusé en nous, vous ne pourrez pas réaliser la vision. Pourquoi ? Parce que tout s'opposera à vous. Et si
ce
n'est pas complètement en vous-même, ça sortira. La vision sortira. Et vous n'accomplirez pas votre destinée. Il y a une différence entre explorer et posséder. Pour l'instant, Dieu lui avait dit explore. Comme les Israélites qui devaient explorer les 12 espions. Parce que la promesse devait tellement rentrer en eux et en lui d'ailleurs, en
Abraham.
Parce que quand la promesse est tellement en vous, que vous courez votre course, alors cela produit la foi. Et la foi, c'est ce qui vous permet de démolir tous les obstacles et de relever tous les défis. Sinon, c'est vous qui allez être balayé devant votre vision. Alors, nous avions étudié une partie du chapitre 14 la dernière fois. Et on va juste regarder quelques cartes là ce soir. De telle façon qu'on puisse, comment dire, avoir un minimum d'informations correctes, convenables, dirions-nous. Parce que chacun de nous, on a besoin de temps en temps de voir exactement. D'avoir dans nos têtes suffisamment d'images qui nous permettent un petit peu de soit d'avoir des dates, soit d'avoir des situations géographiques. Donc la première carte qu'on verra, bien sûr, c'est tout ce qu'on peut voir autour là-bas, c'est-à-dire toute l'Afrique en bas et le Moyen-Orient. On va maintenant faire un gros plan orient.
Ça marche pas, c'est pas grave.
Oui, ça y est. Ok, donc ici on a le Moyen-Orient. Ok. Sur cette partie-là, sinon de l'autre côté, vous pouvez le voir aussi. Donc tout ça, c'est la carte du Moyen-Orient. Donc vous avez la Turquie qui est tout en haut ici. Là, vous avez le Liban, la Syrie, et là, vous avez Israël. En bas, vous avez l'Égypte.
hanyuma epfo ni Egiputa.
Et là vous avez tous les pays arabes.
Aho se rero hari bya bihugu byose by'abarabu.
Arabie Saoudite etc etc.
Za Arabie Saoudite n'ibindi n'ibindi.
Alors, on verra que Abraham a reçu une promesse.
Icyo tubona nuko Abraham yaronse isezerano.
Qui partira normalement
aragenda
d'ici, c'est-à-dire l'Euphrate qui est ici là.
Ugo n'uruze Euphrate mubona?
De l'Euphrate normalement jusque en Égypte, au fleuve d'Égypte. Vous voyez le Nil ici. Entre le Nil et le fleuve de l'Euphrate. C'est tout ça que devait hériter la postérité d'Abraham. Donc ici, le Nil, de ce côté-là, vous le voyez ici en Égypte, il y a le Nil. Et ici, c'est l'Euphrate. En gros, c'est ça. Donc, la postérité d'Abraham, je le répète, devait hériter de tout ça, comme terre.
Mais
vous vous rappelez qu'Abraham, il n'a pas fait qu'un fils. Et on verra que sa promesse s'est réduite, en tout cas pour le fils de la promesse, à Israël. Donc, juste une partie de bande de terre qui est beaucoup, beaucoup plus petite que tout ce que le Seigneur lui avait promis. Parce que le reste sera à la descendance qui n'avait pas été promise.
Tous
les fils d'Ismaël. Mais le fils de la promesse qui était Isaac, tous ses descendants, normalement auraient dû hériter de tout le Moyen-Orient. Mais le fils de la promesse, Isaac, ils vont hériter de la bande de terre de la Palestine. Vous voyez, quand Dieu parle, et on verra comment Dieu va être lié avec Agar, qui va enfanter Ismaël. On va voir comment Dieu était lié avec Agar. Il va être obligé de lui donner des promesses pour son fils. Parce qu'il était fils d'Abraham. Et Dieu peut parler. Dire certaines choses. Parce que souvent, les chrétiens sont comme ça en disant, bon, ben, si le Seigneur m'a dit, tout s'accomplira. Ça veut dire, je suis exonéré d'obéissance ou de quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, on va mettre la dernière carte. Et la dernière carte, c'est ni plus ni moins tout ce que Abraham a fait. C'est un peu verdâtre, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et en fait, ça va être tout d'où Abraham était parti. Donc le point numéro 1 ici, là, c'était Ur en
Chaldée.
Après, il va aller à Charan ou Haran dans certaines traductions. Et en fait, il suivait ni plus ni moins le fleuve de l'Euphrate.
Hein.
Ensuite, il va monter à Alep, qui est juste en bas des montagnes de la Turquie, de l'Arménie. Et après, il va descendre dans le pays de Canaan. Donc, Israël actuel. Ensuite, il va aller, nous le savons, en Égypte. Puis, il va revenir. Donc, ça représente quand même des milliers de kilomètres, tout ça.
Et
rappelez-vous que ce n'était pas en voiture ni en avion. Aujourd'hui, si vous voulez aller à Dubaï, en quelques heures, vous êtes en avion.
Là-bas.
À l'époque, c'était des mois et des mois de voyage. C'était très dangereux. Parce qu'il se promenait en caravane, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'était avec d'autres chameaux.
kuko bagendera ku ndogoba ku
avec des plein de serviteurs
kungamia bafisa
abakozi benshi, et ils étaient obligés d'avoir comme on l'a vu dans ce chapitre que nous sommes en train d'étudier,
kandi bateza kuba bafise ngo twabibonye mu gisomwa twasomye,
ils étaient obligés d'avoir des personnes comme des soldats en quelque sorte, c'est-à-dire des gardes personnels,
bateza kuba bafise abantu bameze nk'abasirikare babacunga,
parce que c'était dangereux,
kubera ko baba bari ahantu hatameze neza hatoroshe kuba.
Donc OK, donc on voit un peu ici, hein, il démarre d'ici Ur en
Chaldée.
Alors, se dit en passant, Babylone, c'est en Irak actuel, bien sûr, c'est à peu près à 40 km de Bagdad. Babylone n'existe plus, hein. La ville de Babylone n'existe plus, mais c'est environ à 40 km de Bagdad, Bagdad actuel.
Abraham yahagurukiye hepfo ni muri Irak, ubu niyo Babylone ya kera, ni nko ku birometero 40 uvuye Bagdad ya Irak ya kino gihe.
Donc voilà, je vous rappelle, hein, il va à Charan ou Haran, c'est marqué dans la Bible, dans la Genèse, nous l'avons vu. Ensuite, il monte à Alep, là il y a les montagnes. Et il va redescendre. Rappelez-vous, Dieu lui avait dit, la Bible nous dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Et il va redescendre dans le sud pour atterrir au pays de Canaan où Dieu va lui dire, c'est ici. Alors je vous encourage, hein, vous avez des cartes à la fin de vos Bibles, vous regardez aussi, de temps en temps, ça peut vous donner des idées un peu sur comment ça se passait. Alors nous avons vu que Abraham va partir avec plus de 300 soldats. Parce qu'il y a entre autres un certain Kedorlaomer, c'était au chapitre 14, roi d'Elam. Et je vous rappelle qu'Elam était une province d'Iran actuelle.
Mais
apparemment, ce Kedorlaomer était un roi très puissant. Et en fait, ce Kedorlaomer avait assujetti un certain nombre de rois et ces rois s'étaient rebellés. Et on voit qu'ils vont venir avec toute une expédition.
Donc,
d'Iran, donc très très loin dans le golfe persique. Donc dans le golfe persique. Hein. Golfe persique. Et en fait, donc à des milliers de kilomètres où Abraham était. Et ils vont descendre et ils vont piller
Sodome.
Abraham se bagarre, il récupère les biens, il va jusqu'en Syrie, en Syrie, à Damas. Jusqu'à 250 km de là, et rappelez-vous, il n'y avait que des pistes à l'époque. Il
n'y
avait pas Kigali dans 300 km.
Il n'y avait rien
qui indiquait quoi que ce soit. Donc c'était pas simple ce genre d'expédition. Alors Abraham revient donc à partir du verset 17, je vous rappelle, il revient vainqueur de Kedorlaomer et des autres rois qui étaient avec lui. Il ramène Lot, sa famille. Et puis il ramène tous les biens aussi. Et là, nous savons qu'il se passe quelque chose de spécial, une rencontre particulière, qui est d'ailleurs une illustration prophétique à propos de
Christ.
Il y a un certain
Melchisédek,
roi de Salem, qui vient et il fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Là, on apprend beaucoup de choses d'un seul coup sur cette période. Il bénit
Abraham.
Et puis, Abraham va lui donner la dîme de tout. Alors, nous étions en train de réfléchir un peu et d'étudier
Melchisédek.
Parce que la Bible nous parle plusieurs fois de ce personnage. Et on va lire le psaume 110. Puis nous allons revoir un peu hébreu, les textes d'hébreu. Parce que hébreu nous en parle aussi. Mais d'abord, les psaumes nous en parlent.
ariko bwa mbere Zaburi iramuvuga ko
un psaume prophétique messianique
Zaburi yubuvugishwa ivuga kuri Mesia
et ça va nous donner cette image de pourquoi est-ce que ce Melchisédek est pris comme un exemple de Christ, une figure de Christ, un type de Christ, ce qu'on
a. Igituma uyu Melchisédek bamufata nk'igicapo nk'ishusho yerekana Kristo ivugishwa kuri Kristo.
De David, psaume parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière ou selon l'ordre de Melchisédek. Verset suivant, s'il vous plaît. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise les détêtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Alors, ce psaume est un psaume dit messianique. On va juste lire le verset 4, donc en Kirundi, s'il vous plaît. Alors, le verset 1 nous dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce texte est cité 5 fois dans le Nouveau Testament. Et on va parler de Christ ressuscité. Parce que « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous savons que Christ s'est assis à la droite du Père quand il est ressuscité d'entre les morts, après la résurrection, après qu'il ait été glorifié. Et je vous rappelle, la droite du Père, c'est l'idée, c'est bien sûr une position d'autorité. Christ s'est assis dans une position d'autorité et le Père a fait prophétiser cela. Pour dire au Seigneur, tu es maintenant dans une position d'autorité, c'est ton église. Et la fin de tout, rappelez-vous d'une chose. La consommation des temps, c'est-à-dire l'accomplissement des temps, c'est Dieu qui va récupérer la gestion de sa propriété, la terre, je vous le rappelle. Nous avons étudié ça dans toute l'étude sur la fin des temps, dans l'Apocalypse, verset par verset. Et nous avons vu que l'Apocalypse, ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas ça. L'objectif de l'Apocalypse, c'est l'histoire du royaume qui a été perdu et qui a été récupéré par Dieu. C'est le propriétaire de la terre, Christ, qui vient gérer sa propriété. Et pour ce faire, il devra évidemment éliminer tous ses ennemis. Et ça, c'est la fin de la tribulation. Alors, là, il y a un verset. Verset 4 nous parle de quelque chose d'étonnant. L'Éternel l'a juré, ne regrettera pas, tu es sacrificateur pour toujours. À la manière de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, nous allons regarder en parallèle des textes dans l'Épître aux Hébreux. Parce que d'une façon très intéressante, l'Épître aux Hébreux va nous faire des comparaisons. Il y a Hébreux 4 qui nous en parle. Ensuite, il va y avoir, à partir d'Hébreux 4 jusqu'à pratiquement Hébreux chapitre 7. On a plusieurs mentions de ce
Melchisédek.
Alors en fait, on nous parle de ce Melchisédek en faisant une comparaison. Il y a les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Rappelez-vous que l'auteur de l'épître aux Hébreux voulait démontrer une chose très importante. C'était que maintenant, il y avait une nouvelle alliance. Que Jésus n'était pas venu pour détruire, mais accomplir cette alliance. Que l'ancienne alliance, la loi de Moïse, c'était le meilleur de Dieu possible pour les Israélites de l'époque. Mais l'objectif de l'épître aux Hébreux, c'était de dire, voilà, maintenant il y a quelqu'un qui est venu. Ce Jésus, il a contracté une bien meilleure alliance. Et lui, il a des caractéristiques qu'aucun homme mortel ne peut avoir. Et c'est pour ça que vous trouverez au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7 de l'épître aux Hébreux,
eh
bien, une comparaison entre la façon dont Dieu avait établi les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, la manière de servir. Donc des sacrificateurs qui vont être mortels, qui vont aussi être pécheurs, donc qui vont aussi offrir des sacrifices pour leurs propres péchés, qui devaient être tous de la tribu de Lévi, donc qui avaient une descendance qui est mouraient, quand ils mouraient, leur sacerdoce était ce qu'on appelle transmissible, c'est-à-dire que bah, c'était leurs enfants qui prenaient la suite. Donc on voit trois caractéristiques de faiblesse des sacrificateurs selon Aaron. Donc ils étaient pécheurs, ils étaient mortels, et puis leur sacerdoce était transmissible. Alors, parce que ces passages, si on les lit, on peut les lire en détail, mais c'est un peu compliqué à comprendre. Si vous voulez parler en langue, eh bien prenez Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 6 et Hébreux chapitre 7 par cœur. Honnêtement, ce sont quand même des passages qui sont assez difficiles à comprendre. Il y a des choses, ça va, mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Donc l'idée, en fait, c'est une comparaison entre le fait d'être sacrificateur selon l'ordre, c'est-à-dire la façon de servir d'Aaron, et puis la façon de Melchisédek. Et en fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux va reprendre cette parole du psaume que nous avons lu dans le psaume 110, qui était vraiment une révélation, mais inspirée par le Saint-Esprit, que David, je vous rappelle, qui était roi et prophète, avait reçu. Et dans ce psaume dit messianique, il va donc faire cette déclaration, tu es sacrificateur, je le déclare, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, l'idée, justement, c'est que Melchisédek va être ce qu'on appelle un type de Christ, c'est-à-dire une image de ce que Jésus sera. Et c'est pour ça que dans ces passages de l'épître aux Hébreux, on va parler de Melchisédek et on va vraiment expliquer cette, ces analogies, ces comparaisons avec Christ. Alors, d'abord, on voit que Melchisédek était roi et sacrificateur dans Genèse
14-18.
Roi et sacrificateur. David était prophète et sacrificateur. Prophète et roi, excuse-moi. Mais vous ne trouvez pas justement des rois et des sacrificateurs. Seulement Christ sera roi des rois et sacrificateur. Alors évidemment, il y a aussi, on va reprendre en parallèle le texte, comment dire, de Genèse 14. Genèse 14. Les sacrificateurs, selon le Lévi, donc la tribu de Lévi, n'étaient pas des rois. Alors, ensuite, la parole de Dieu va nous montrer que c'était donc Melchisédek, verset 18, 14-18 de Genèse, roi de Salem. Roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Et il était roi sur quoi? Sur Salem. Salem, ça veut dire la paix. Et évidemment, celui qui a apporté la justice. Et rappelez-vous que la justice aujourd'hui, comment elle nous est apportée? C'est au travers du sacrifice de Christ, du pardon des péchés, que nous sommes déclarés justes. Mais Jésus, dans le millénium et après dans l'éternité, régnera parfaitement avec justice et équité, donc d'une manière parfaite. La vraie justice sera établie. Et c'est une image encore, au travers de son nom, roi de justice et roi de paix.
Salem.
Alors, la Bible va nous montrer aussi dans Hébreux 7, 3. Alors là, il y a une analogie qui est assez intéressante. On va lire à partir du verset 1. Et on va voir un petit peu Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. Et à un moment, la Bible va nous dire quelque chose qui est un peu étonnant. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, donc Melchisédek, roi de justice, et roi de la ville de Salem, roi de paix, okay, image de Christ, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Vous vous rappelez, c'est le chapitre que nous sommes en train d'étudier, chapitre 14 de la Genèse, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3 maintenant, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité.
Melchisédek, umwami w'Isalemu ari umwami w'amahoro umwami w'ubutungane umuherezi w'Imana isumba byose niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri byose ijya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka kandi ijya kabiri yitwa umwami w'Isalemu bisobanurwa ngo umwami w'amahoro ntase nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo ariko agereranywa n'umwana w'Imana kandi na ntaryo ahora ari umuherezi.
Alors ici c'est un peu étonnant parce qu'en fait c'est une analogie. En fait on voit dans l'écriture Melchisédek, c'est comme s'il était parachuté comme ça.
Ararumenga Melchisédek no muntu yadutse ntuzi yavuye arashitse gusa.
Il apparaît. C'était un homme. Il y a des gens qui ont dit non, c'était Jésus. Non, c'était pas Jésus, c'était un homme. C'était un sacrificateur et roi. Mais l'idée ici de ce passage, C'est de dire que, vous savez, souvent dans la parole de Dieu, il va y avoir ce qu'on appelle des généalogies. Donc on dit fils d'un tel, qui engendra un tel, et fils d'un tel, etc. Et là, Melchisedec, on n'a aucune trace d'où il vient. C'est l'idée ici je dirais du verset 3 de Hébreux. C'est qu'en fait, il est sans père ni mère, on ne sait pas d'où il vient. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de créer une généalogie de Melchisedec. Et puis aussi, il apparaît. Il y a un événement particulier qui est là, très particulier, dont l'Écriture va parler, dont l'Écriture va se servir, et puis après, on n'entend plus parler de lui. On
ne
sait pas quand est-ce qu'il est mort, on ne sait rien sur lui.
Donc,
c'est une image. Dieu utilise justement cette image dans la parole comme l'image de son fils. Bon, par exemple, les sacrificateurs selon Aaron, bon, c'était transmis par la généalogie. Mais Melchisedec, c'est Dieu apparemment lui-même qui lui a donné ce sacerdoce. Comme Jésus aussi. Rappelez-vous, Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, vous vous rappelez de ça? Jésus était de la tribu de Judas. Pas Judas avec un S, Judas sans S.
Atari Yuda,
donc en fait c'est vraiment une image ici que la Bible prend, et vraiment Melchisedec, c'est étonnant de le voir apparaître comme ça dans la Bible, parce que même Abraham, je vous rappelle, qui était prophète, je vous le rappelle, on l'a vu la dernière fois, va venir devant lui, lui apporter la dîme de tout.
Donc,
certainement quelque part il se connaissait quelque part. On ne sait pas où ni comment, mais Abraham n'aurait pas agi de cette manière là soit s'il n'y avait pas eu un déclic divin, on ne sait pas lequel d'ailleurs, ou soit si Melchisedec n'était pas quelqu'un de reconnu et d'approuvé par Dieu. Donc on voit, c'est l'image de Christ,
le
roi sacrificateur, sans généalogie à partir d'un sacerdoce transmissible, et on ne sait pas après qu'est-ce qu'il va devenir. Donc c'est l'idée ici. Alors ensuite, on voit que ce Melchisedec apporte bien évidemment du pain et du vin. Image du sacrifice de Christ. Ensuite, on voit que Melchisedec prend la dîme. Et la Bible va nous dire que c'est comme si la dîme avait été prise au travers d'Israël, qui était Lévi, dirions-nous, puisque c'était Lévi qui prélevait la dîme, la tribu de Lévi qui prélevait la dîme, puisque c'était eux qui servaient le Seigneur.
Et
la Bible nous dit que c'est comme si, c'est au verset 5, on voit ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, Hébreux 7, hein, c'est-à-dire de leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham.
Et
là, c'était quelque chose de prophétique aussi. Parce que la Bible nous dira que Lévi était dans le sein d'Abraham, en quelque sorte. Il a été engendré au travers de son fils Isaac.
Et
après
Jacob. Et on
voit que tout ça, ce sont des images, bien sûr, dont la Bible se sert.
ibi byose ni bicapo bibiliya ubona kwigendera koresha.
Alors l'aspect aussi de la transmissibilité du sacerdoce.
Hanyuma rero ni iki kintu cyuvuga ngo ubuherezi buva kuri umwe bugahabwa uwundi.
Donc il n'a reçu le sacerdoce de personne.
Melchisedec nta numwe yamuhaye ubuherezi.
Et Melchisedec ne l'a pas donné à qui que ce soit.
Nawe
de connu en tout cas.
Ntibiboneka nta numwe tubona azwi.
Donc c'est l'image de Christ qui reçoit le sacerdoce, c'est-à-dire la façon de servir dans la nouvelle alliance, le sacrifice, qui ouvre la porte de la nouvelle alliance et il l'a reçu du Père directement. Et ce sacerdoce ne sera jamais transmis. C'est pour ça que Dieu dit, tu seras sacrificateur selon l'ordre, la façon de Melchisedec, l'image de
Melchisedec.
Éternellement. C'est pour ça que Melchisedec a été pris comme image. Donc on pourrait, je vous encourage à le faire, mais je vous dis, ce n'est pas des passages qui sont faciles. Le chapitre 5, 6 et 7 d'Hébreux. Donc simplement, c'est pour nous montrer ici l'imperfection des sacrificateurs de la loi de Moïse, donc selon le sacerdoce d'Aaron. Et la perfection de Christ, dont l'image c'est étant Melchisedec qui est prise dans ces passages-là. Et rappelez-vous, l'image c'était de montrer d'abord que les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron offraient des sacrifices pour leurs propres péchés, étaient mortels et leur sacerdoce se transmettait de génération en génération. Et ce Melchisedec, image de Christ, pour lui, ce n'était pas le cas. En tout cas, dans le passage qui nous est relaté dans la Genèse. Et c'est pour ça que la Bible prend cet exemple-là. Et je vous rappelle qu'une image, un type, ce qu'on appelle... C'est pas pour montrer à la perfection, c'est juste pour donner des grands traits de ce que Christ est.
Iyo batanze igicapo cyangwa igitutu cy'ikintu muri Bibiliya, sikora ngo berekane neza na neza ngene bimeze mugabo ni igicapo nyene cyacu.
C'est pour donner vraiment ça nous aide à mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous.
Ni kintu kicya kigufasha gutahura ico Yesu yakoze ku bwacu.
Alors ensuite, on va continuer donc dans la Genèse chapitre 14.
Tugaruke mu itangiriro 14.
Et là, il va y voir au verset 19, il dit il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, El Elyon encore, qui a livré tes adversaires entre tes mains.
Ngo ahezagira Abraham aturagahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyenijuru n'isi kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko.
Alors, trois fois dans ce passage, il va être mentionné le Dieu très haut. Dans ces quelques versets, ces trois versets. Et l'idée, c'était de montrer, c'est un peu une nouvelle révélation de Dieu qu'on a dans la Bible. Rappelez-vous, nous connaissons beaucoup plus sur Dieu que ce qu'il connaissait dans l'Ancien Testament. Nous avons une pleine révélation de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui n'était pas le cas de ceux qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque la Bible nous dit au chapitre 1 de la Genèse, au verset 1, au commencement, Dieu créa. Littéralement, c'est le mot Elohim en hébreu qui est utilisé.
Elohim,
qui est un pluriel. On pourrait presque traduire au commencement Dieu, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais non pas la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et
si vous étudiez bien comment Dieu va se révéler à Abraham à partir donc du premier chapitre qu'on a étudié, chapitre Jusqu'à présent, on ne parle que de l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. Et quand vous voyez ce terme l'Éternel apparaître dans l'Ancien Testament, c'est toujours en relation avec l'homme. En résumé, si vous étudiez le début de la Genèse, il y a le mot Elohim qui est traduit par Dieu.
Et Dieu
créa les cieux et la terre.
Elohim, Imana, iremeye amajoro
n'isi. Dieu vit que cela était bon, etc., etc., etc.
Imana ibona ko ibyo ari byiza.
Et là, c'est toujours Elohim, Elohim, Elohim.
Aho hose bagakoresha ijambo Elohim, Elohim.
Lorsque l'homme va être créé,
umwana w'umuntu aremwe,
et que Dieu parle à l'homme,
Imana ikavugana n'umuntu,
on parle soit de l'Éternel,
bakoresha ijambo nguhoraho,
ou soit on parle de l'Éternel Dieu.
Chanke bagavuga nguhoraho Imana.
Et en fait, c'est ni plus ni moins.
Mais andi majambo,
la révélation de Dieu le Fils. Mais pour l'instant, ce n'est pas clairement défini. Les hommes qui marchaient avec Dieu n'avaient pas cette pleine révélation comme nous l'avons. L'Éternel, c'est ni plus ni moins un mot hébreu qui est constitué de 4 consonnes qui sont YHWH.
Nijambo ye nahe nawe nahe.
Merci Steve. Heureusement qu'il a l'habitude. Et en fait, ça se serait prononcé pour différentes raisons Yahweh ou Yehovah.
Munyuma basanze barivuga barisoma ngo Yahweh cyangwa bakavuga ngo Jehova.
Et ça vient d'une racine, ce qu'on appelle ce tétragramme, c'est-à-dire ces 4 consonnes.
Ni ijambo rero riva mu muzi.
Eh bien, ça a une racine la racine du verbe être.
Ririmu
exister.
Rifise umuzi w'ijambo ngo kubaho cyangwa ego kubaho.
C'est pour ça que les traducteurs ont eu du mal à partir de ces 4 lettres hébreues. On ne pouvait pas dire... dans les très vieilles traductions, par exemple françaises, vous allez trouver « Yahweh dit à Abraham ». Puis il y a eu quand même un traducteur, je crois que c'est au 19e siècle, si mes souvenirs sont bons, qui a voulu faire ressortir un peu la signification de YHWH, et qui a pensé donc à mettre plutôt le terme l'Éternel. Mais littéralement, quand vous voyez le mot éternel, la racine du mot exister, ça veut dire un peu celui qui existe par lui-même.
C'est-à-dire
celui qui n'a jamais été créé. C'est difficile la leçon ce soir. Vous voulez plus de théologie, on peut vous en faire plus profond. Non, mais c'est des choses que vous devez savoir sur la Bible. Parce que c'est important, quand vous lisez l'Ancien Testament, de comprendre certaines choses. Et qu'il y a un minimum de révélation. Que vous puissiez comprendre la parole. Parce que sinon, les gens prennent l'Ancien Testament et font n'importe quoi avec. Donc, revenons à notre passage. Parce que ici, on va dire El Elyon. El Elyon. Alors, c'est vraiment un nouveau mot sur Dieu, un nouveau qualificatif. Le Dieu très haut, le Dieu très élevé. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, il va y avoir des mots composés. Parce que El Elyon, c'est un mot de Dieu qui est un mot composé.
Vous
voyez, par exemple, vous avez Elohim.
Elohim.
Vous avez El Shaddai.
Elohim, El Shaddai.
Elélion.
Hariho Elélion.
Et il y a plein d'autres noms par lesquels Dieu va se révéler.
Hari n'andi majambo atari make usanga Imana yihishuyemwo.
Et vous avez vu qu'il y a quelque chose de commun, c'est
elle. Hari akantu gumubonamwo kagarukamwo ni ako kantu ngo
elle. Elle. Ce mot qui a été traduit par Dieu.
Nakajambo rero gasobanura Imana.
Et à côté, il va y avoir un qualificatif.
Iruhande ko tusanga hari ikindi bavuga kigenga iyo Mana.
Comme elle Elélion.
Ngo elle Elélion
hakarukamwo. Elélion ça va vouloir dire très élevé, très haut.
Elélion na habisobanura ngo isumba byose iri hejuru nyene ijuru n'isi.
Et c'est une révélation particulière que d'abord Melchisedec avait reçue.
Nihishurwa ridasanzwe ubwa mbere Melchisedec yari afise.
Et Abraham
hanyuma Abraham
a compris cette révélation.
Acharatahura iri hishurirwa.
Et on voit très bien.
Turabona neza ko yabitahuye.
Alors ici, la Bible va nous dire, verset 20, « Béni soit le Dieu très haut, donc Elélion, qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham, excusez-moi, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors c'est absolument étonnant, vraiment dans ces passages, on a l'impression que d'un seul coup, Dieu nous donne une lumière qu'on n'a pas eu jusqu'à présent dans l'Ancien Testament.
Kuri uyu murongo womenga Imana iduhaye umuco kugeza aho tutari bwaronke mu isezerano rya
kera. Rappelez-vous, on est à peu près 1950 voire 2000 ans avant Jésus ici.
Aha mwibuke ikintu kimwe turi nk'imyaka ibihumbi bibiri hafi mbere yuko Yesu aza ku isi.
On n'est pas encore dans la loi de Moïse.
Niturashika mu byagezwe
bya Mose. On n'a aucun écrit que Dieu a donné.
Nta kintu na kimwe tubona Imana yanditse.
La connaissance de Dieu se transmet verbalement seulement.
Ubumenyi bw'Imana bwose butangwa ku majambo.
Il y a des gens qui marchent avec Dieu.
Hari abantu bagendana n'Imana.
Nous en avons des exemples avant Abraham.
Hari ubururu buboneka imbere y'Aburahamu.
Et là d'un seul coup. Alors que pour l'instant, on voit quelque chose qui se répète chez des gens qui servent Dieu. C'est la façon d'adorer avec des sacrifices. D'un seul coup, on voit Abraham poser un acte.
Qui
est la toute première fois la mention de la dîme. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant. Parce que la dîme est mentionnée pour la toute première fois dans ce passage dans la Bible. Ensuite sera mentionnée dans l'Ancien Testament. Et beaucoup de gens vont dire, mais dans le Nouveau, on ne voit pas ça. Et là, ça nous fait poser une autre question. Quand on regarde la dîme, comment ça va être enseigné dans la parole de Dieu? De façon étonnante, c'est le premier passage où on en parle. On n'a aucune loi.
Et
il y a des gens qui disent la dîme, c'était pour la loi de Moïse. C'est faux, parce qu'on est bien avant la loi de Moïse, on est plus de 400 ans avant la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qui a pris à Abraham de donner la dîme d'un butin? C'est mentionné dans la parole. C'est repris dans l'hébreu comme un acte vraiment très particulier. Et après, Dieu, dans la loi de Moïse, va préciser la dîme. Alors, comment est-ce qu'Abraham a pu savoir ça? C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Mais une chose est sûre, c'est que
ce
n'est pas Abraham qui a inventé la dîme. Et Dieu qui a dit, mon serviteur Abraham, le jour où il a été rencontré par Melchisedec, a eu une très bonne idée. Donc, comme il a eu une très bonne idée, je pense que je vais reprendre ce que mon serviteur Abraham a fait, moi, Dieu, et je vais reprendre ça, et je vais mettre ça dans la loi de Moïse.
Abraham, comme
si Dieu aurait enseigné, Abraham aurait enseigné quelque chose à Dieu.
Non, il
y a quelque chose derrière qui ne nous est pas dit dans la parole. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, dans l'interprétation de la Bible, ce qu'on appelle les passages implicites, c'est-à-dire évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
On
ne sait pas quand est-ce que ça a été initié, mais Abraham ne devait pas être le premier qui a donné sa
dîme.
Mais il y a quelque chose, c'est comme les sacrifices de sang, c'est-à-dire venir devant Dieu avec un animal. Rappelez-vous l'histoire de Cain et de Abel. Ils veulent venir adorer Dieu. Il y en a un qui vient, je vous rappelle que c'est les fils d'Adam et Ève. Cain arrive avec les fruits de ses productions.
Et
Dieu dit, je refuse ça. Certains ont dit, non, ça c'est parce que effectivement Dieu avait maudit la terre. C'est faux. Parce que dans la loi de Moïse, Dieu ordonnait que, par exemple, dans la fête des prémices, on lui amène les premiers fruits des récoltes. Donc amener des premiers fruits en dîme ou en offrande à Dieu de récolte, c'est-à-dire de choses qu'on avait fait pousser dans les champs, Dieu le demandait même dans la loi de Moïse. Si c'était la raison pour laquelle Dieu avait refusé l'offrande de Cain, je
ne
vois pas pourquoi Dieu aurait changé d'avis et aurait mis ça dans la loi de Moïse. Non, il y avait autre chose de plus profond. Abel, lui, il arrive avec sa petite brebis. Et honnêtement, vous savez tous comme moi qu'il est plus difficile de cultiver la terre que d'élever des animaux. Élever des animaux, c'est quand même beaucoup moins de transpiration, de difficulté, plutôt que de retourner de la terre, de planter des semences et s'en occuper jusqu'à temps que ça pousse. Donc, si on avait pu mettre un prix d'honneur au travail entre Cain et Abel, je pense que Cain aurait eu le prix d'honneur. Parce que ce qu'il apportait, c'était plus difficile à produire que ce que Abel apportait. Il apportait une petite brebis. Sauf que Dieu a accepté cette offrande. Et Dieu dit à Cain, parce que Cain se fâche, parce qu'il voit qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu avec ça, avec ses plantes,
avec
ses fruits. Et
Cain
se fâche. Et Dieu lui dit, si tu fais la bonne chose, c'est-à-dire de la bonne manière, alors ça va, je pourrais accepter ça. Je paraphrase, mais c'est ce que Dieu lui disait. Sous-entendu, il disait à Cain, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que pour t'approcher de moi, il y a une loi spirituelle. Vous allez me dire pourquoi, pasteur, tu parles des sacrifices alors qu'on va parler de dîmes. On est en train de parler de
dîmes.
Attends, on va y arriver. Et en fait, Dieu disait littéralement à Cain, mais pourquoi tu t'obstines à faire quelque chose alors que tu sais qu'il faut faire autrement?
Vous
savez, c'est l'histoire de la religion. La religion essaye de faire ses propres trucs de sa propre façon et de dire on vient devant Dieu, on prie Dieu. Et Dieu dit, je
ne
peux pas recevoir ça. J'ai discuté un jour avec quelqu'un comme ça. C'était une Française. Une bonne Française bien formatée. Elle me racontait des expériences qu'elle dit avoir fait avec Dieu. Et je parlais avec elle, je l'écoutais. Je me suis retrouvé dans telle et telle difficulté.
Je priais,
j'ai dit, oh mon Dieu, venez m'aider, blablabla, etc.
Et
elle me racontait des expériences qui vraiment, je dirais, on pourrait dire que c'est un témoignage. Mais dedans, il n'y avait pas Jésus. Alors j'ai dit, vous savez, madame, tout ça c'est bien, mais la seule façon de s'approcher de Dieu et d'être approuvé de Dieu, c'est par Jésus et son sacrifice. C'est comme si d'un seul coup j'avais pris une lance. Vous savez, une lance des Inori. C'est ça, c'est les danseurs là, qui ont des lances. C'est Inori. Et d'un seul coup, je l'avais planté dans le cœur. Elle a commencé à faire comme ça. Je me suis demandé si elle n'allait pas tomber par terre. Et elle a dit, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je lui ai dit, madame, on ne peut pas venir à Dieu en dehors de Jésus. Le chemin vers Dieu, c'est Jésus et son sacrifice. Il
n'y
en a pas d'autre. Parce qu'évidemment, après, elle a commencé à me parler de philosophie orientale, du yoga.
Vous
voyez, il y a des gens comme ça. Alors, c'est les gens souvent se focalisent sur quelque chose. Sans se poser la question, qu'est-ce que Dieu approuve ? Dieu ne pouvait pas approuver ce que Caïn apportait parce que c'était une loi spirituelle. Il ne pouvait approuver que ce que Abel a amené, non pas pour l'effort ou le moindre effort, mais parce qu'il y avait une loi spirituelle incontournable, la loi du sacrifice pour s'approcher de Dieu. Une vie devait être donnée pour que l'homme s'approche de Dieu. C'est une loi spirituelle qu'on retrouve d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons nous approcher du Père seulement, pourquoi ? Par Jésus, Jésus notre sacrifice, c'est tout.
Il n'y
a pas besoin de chercher une équation compliquée à résoudre, elle est déjà résolue. Les religieux cherchent une équation irrésolvable. Et ils courent en enfer parce que la solution, mathématicien, vous connaissez, c'est l'ensemble vide. C'est un rond avec une barre au milieu. Mais Steve, il ne sait pas ce que c'est parce que Steve, il a étudié l'économie seulement. Si, c'est ce que c'est. Et en fait, c'est le problème des gens souvent. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce que l'histoire des sacrifices, comment est-ce que c'est venu ? Parce que l'histoire de Caïn et Abel, on peut se poser la question. Certains disent, mais Dieu a été injuste dans cette histoire. Celui qui vient, qui a travaillé dur, il offre ça de bon cœur. On ne sait pas exactement si c'était de bon cœur. À Dieu, et Dieu lui dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et l'autre, il arrive avec sa petite bête, il l'offre à Dieu, et Dieu dit, oui, je t'approuve. Comment ? Et quand est-ce que cette loi spirituelle a été donnée ? Est-ce que la Bible nous dit, bien voilà, cher Adam et Ève, maintenant vous devez vous approcher avec un sacrifice, je veux une bête qui soit tuée.
nshaka yuko mutora ibikoka bakaba ryo muntangira munzanira kugira munyegere.
On n'a pas un tel passage.
Nagice nkico tubona.
La seule chose qu'on sait c'est que Dieu a revêtu Adam et Ève après leur péché d'habits de peau.
Icyo
peau d'animaux.
Kimwe gusa nuko igihe bakora icyaha bagatangura kwinyegeza biyambitse ibyatsi Imana yabazi igikoko ibambika
ubusha. Et d'un seul coup dans toute la Bible.
Muri Bibiliya yose kuva icyo gihe.
Non particulièrement l'Ancien Testament dans la Genèse.
Cyane cyane mu isezerano rya kera mu itanguriro.
Chaque personne qui sert Dieu.
Ubona umuntu wese akorera Imana.
Poser des actes.
Hari ibintu akora.
D'adoration avec un animal.
Byo guhimbaza Imana akoresheje igikoko.
Comment savait-il ça?
Ni gute bari babizi?
Apparemment, Dieu a enseigné à Adam et Ève. Mais ça ne nous est pas rapporté explicitement dans la Bible. Par contre, implicitement, on voit que toute personne qui fait quoi que ce soit pour Dieu vient avec un sacrifice. Alors revenons à la dîme. Comment est-ce qu'Abraham a pu savoir qu'il devait apporter la dîme aux serviteurs de Dieu? C'est sûr, comme je vous l'ai dit précédemment,
ce
n'est pas Abraham qui a inventé la dîme. Et ce n'est pas Dieu qui a repris sa belle idée pour mettre ça dans la loi. Mais derrière tout ça, il y a un principe divin. Comment Abraham l'a appris, on n'en sait rien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est le premier qui a donné sa dîme? On n'en sait rien. Mais il a posé un acte qui est repris et approuvé dans le Nouveau Testament. La conclusion pour moi, c'est qu'on voit clairement d'abord que la Bible va représenter une loi spirituelle. Et on voit que dans l'Ancien Testament, enfin avant la loi de Moïse, Abraham pose cet acte. On verra que Jacob va poser cet acte aussi. Jacob, quand il va se repentir alors qu'il était rétrograde, il va dire: Seigneur, si tu me sauves de là, de ce trou là, de cette poursuite de Laban là, je te servirai, je te donnerai la dîme de tout.
Vous
voyez, on voit ces actes qui sont posés. Et après, dans la loi de Moïse, on voit une précision que Dieu donne. Et en travers des alliances, la dîme est reprise dans la nouvelle, non pas comme une obligation, une loi, mais comme une loi spirituelle que l'on pratique dans une relation d'amour avec Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Dans la loi de Moïse, ils étaient obligés de le faire. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous donne cette loi spirituelle, puisqu'on la voit apparaître avant la loi de Moïse. Et c'est quelque chose qu'on fait toujours parce qu'on aime le Seigneur. Donc on ne sait pas où est-ce que Abraham a appris cela. Mais c'est pas lui qui a enseigné Dieu, ça on sait. Comment est-ce que Dieu lui a transmis ça, on ne sait pas. Ça reste quelque chose qui est un point d'interrogation. Mais cet acte est tellement posé et tellement approuvé divinement que
ce
n'est pas une invention de l'homme. C'est quelque chose de divin qu'Abraham a su pratiquer à ce moment-là. La semaine prochaine, nous verrons la suite de ces passages-là. Comment Abraham va refuser qu'un païen veuille le bénir. On verra là aussi comment un trait particulier, une clé qu'il va utiliser pour sa destinée. Et on verra comment Dieu va lui préciser encore sa promesse.
Et
que Dieu va approuver ces choses d'une certaine manière. Et on verra qu'on ne peut pas forcer les promesses de Dieu.
Mais
quand Dieu nous promet quelque chose, il va y avoir une alliance. Et il va y avoir une approbation divine. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit dimanche.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.